C'était hier la journée mondiale de l'environnement, mais à vrai dire, à part Hervé Gardette qui en a fait sa chronique hier matin sur cette antenne, cette journée a eu relativement peu d'écho, et c'est un euphémisme. Et pourtant, parmi les penseurs du monde d'après, sous-entendu le coronavirus, ils et elles étaient nombreux il y a encore quelques semaines à réfléchir à ce que serait une relance économique durable, à prôner la relocalisation agricole et industrielle, à remettre au cœur de la société un certain nombre d'activités laissées à la marge et à appeler de leurs vœux un monde plus écologique, plus soucieux du lien avec le reste du monde vivant. Au moment où la crise sanitaire semble céder du terrain et où la question de ce qui va advenir se pose de façon urgente devant la crise économique et sociale, il est temps en effet de s'interroger sur les promesses du monde d'après qui, à vrai dire, a lieu maintenant. Climat et virus, écologie, économie, place de cette épidémie dans l'histoire des sciences et voie de sortie possible d'une situation inédite, autant de questions que nous avons envie de poser à notre invité ce matin, Ami Dahan. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Et bienvenue, vous êtes historienne des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS, auteur en 2015 d'une somme intitulée « Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales », c'était aux presses de Sciences Po. La journée de l'environnement, ça a du sens, ça sert à quoi ces journées mondiales de l'environnement ?
C'est une routine, un petit peu, voilà, pour rappeler les choses, mais effectivement je crois que l'urgence de résoudre un certain nombre de problèmes est devant nous. Et il ne s'agit plus de routine maintenant.
Il s'agit vraiment d'autre chose. Le monde ancien, disons, a volé en éclats.
Je crois qu'on peut dire cela sans conteste. Maintenant, moi je suis inquiète, effectivement. Je comprends la joie et le plaisir que nous avons à retrouver des formes de sociabilité et de vie d'avant.
Se retrouver d'ailleurs en studio ensemble.
Exactement. j'ai effectivement, je crains que nous soyons, nous, les citoyens, mais aussi, bien sûr, nos dirigeants, les politiques, les forces politiques, etc., repris dans une routine ou dans un aveuglement d'avant. Et on ne sent pas aujourd'hui, me semble-t-il, de façon suffisamment forte, la nécessité de poser en termes nouveaux les problèmes qui sont devant nous. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'interventions d'intellectuels, d'économistes sur la sortie de crise, mais je trouve que le débat public général n'est pas présent, vraiment. Et il n'est pas, d'une certaine façon, aussi introduit par le gouvernement ou le président de la République ou l'État de façon générale, de façon très forte et très nette. Alors que, à des moments donnés, au début de la crise, nos dirigeants, face à l'événement nouveau, etc., disaient le monde d'après ne sera pas le même, etc. Et il y a eu quelques interventions du président de la République, par exemple, dans le Financial Times, ou par-ci par-là, disant voilà, il faut maintenant prendre en compte les différents périls qui avaient déjà été évidemment sur le devant de la scène, comme la question du risque climatique. Il faudra résoudre des choses en même temps, etc. Et puis on a l'impression qu'une sorte de voilà, ça se dissout un peu, ça se perd, c'est loin, et c'est une question qui ne peut pas disparaître.
Ami Dahan, vous parlez d'aveuglement en parlant de ce monde déjà ancien qui aurait volé en éclats. Ce serait quoi l'aveuglement si on prend les choses dans l'ordre ? On commence par l'ancien pour aller vers le nouveau ensuite.
Écoutez, je crois quand même que maintenant c'est presque une banalité de dire que le rapport que nous entretenons à la planète, à la nature, à l'ensemble des ressources qui permettent à l'humanité de se développer, de se multiplier, etc., n'est pas géré, n'est pas que notre rapport est un rapport qui est absolument fou, d'exploitation suicidaire, qui ne permet pas. Et la crise du coronavirus le montre, parce que c'est une crise qui n'est pas directement liée, évidemment, à la question du climat, mais elle est liée aussi à notre rapport à la nature, aux forêts, aux relations au monde sauvage et au monde industriel, entre le monde sauvage et le monde industriel, etc. Donc, voilà, il y a un certain nombre de questions qui avaient été posées avant, comme celle d'ailleurs de la pandémie. Il suffit de lire des tas de sociologues, de rapports qui avaient alerté sur cette question, et même certains politiques étaient tout à fait au courant. Et en même temps, on a pensé, voilà, qu'on réagirait en afflux tendu au moment même et que on pouvait pas immobiliser des ressources et des moyens comme ça pour rien si ça n'arrivait pas. Et c'est arrivé. Et sur la question climatique, et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'interroger sur cette alerte qui maintenant dure depuis pratiquement 30 ans. 30 ans que les rapports s'accumulent, etc. Avec un sérieux, là, il faudra en reparler aussi peut-être dans notre échange sur cette question de la science derrière cette alerte climatique qui montre une solidité, enfin des formes d'organisation extrêmement sérieuses, etc. Et finalement, c'est pas pris véritablement à sa mesure.
Amie Dahan, vous êtes une spécialiste, on peut le dire aujourd'hui, hein, de la gouvernance justement du climat, avec cette somme sur 20 ans de négociations internationales. On a, c'est vrai, l'impression qu'en quelques semaines, cette épidémie, cette pandémie, a été plus loin que tous les accords internationaux sur le climat. Chute spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre observées un peu partout. Le jour du dépassement de la Terre. Alors le jour du dépassement de la Terre, c'est ce jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année. Eh bien, ce jour du dépassement de la Terre a même reculé de 3 semaines cette année. Mais à vrai dire, au-delà d'un sanglier aperçu sur la croisette à Cannes, d'une autruche dans les rues de Baltimore aux États-Unis ou des sommet de l'Himalaya, à nouveau visible depuis l'Inde, que se passe-t-il réellement en termes de négociations internationales? On voit un Donald Trump ou un Jair Bolsonaro aller encore plus loin dans la négation de ces négociations internationales. L'Amazonie est en train d'être détruite.
Détruite à un point.
De façon accélérée, etc. Donc, en quoi réellement cette expérience mondiale induite par la crise du coronavirus a-t-elle été finalement plus loin que les accords internationaux ?
Alors, cette crise du coronavirus, c'est peut-être l'occasion de se dire il faut réexaminer les choses. Je la vois comme ça. Une opportunité qui s'offre à nous, c'est une expérience. Bien sûr, ces 3 mois d'arrêt du monde, on peut dire, ont provoqué, comme vous l'avez dit, une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui nous donne une idée de ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est-à-dire qu'effectivement, si on voulait respecter les 1,5%, il faudrait finalement baisser comme ça chaque année de 7%, 6-7% pendant jusqu'à 2040.
Et puis, presque un ralentissement qui provoque une prise de conscience accélérée.
Voilà, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, voilà ce qu'il faut. C'est pas le collapse, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un sacré ralentissement. Alors, il y a des choses qui peuvent durer, qu'on doit pouvoir retenir, et il y a des choses qui, évidemment, on va pas les retenir. On va pas être enfermé dans nos appartements pendant des années et des années. Non, ça c'est pas... Par contre, on peut se dire que des formes de gaspillage, de production, d'accélération de tout ne sont pas nécessaires. Elles sont même préjudiciables à nos épanouissements et nous avons tout à gagner à prendre en main ces nouveaux défis.
Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on abandonne? C'est exactement les termes d'une alternative posée dans un questionnaire par le sociologue Bruno Latour dans AOC au mois de mars, d'avril. Il a écrit 2 articles importants dans AOC. L'un justement sur ces gestes barrières qu'il faudrait maintenir dans ce monde d'après. Et puis l'autre plus récent sur la déséconomisation du monde et cette sortie de la productivité à tout craint. Le problème aujourd'hui, Amie Dahan, c'est que se pose de façon accrue une exigence sociale, une exigence économique avec un chômage endémique croissant et gravissime sur toute la planète. Et donc, peut-être que dans ce monde qui advient, la difficulté sera encore plus difficile à trouver d'équilibrer exigence sociale et écologie.
C'est sûr que l'exigence sociale, je la prends très au sérieux, bien sûr, et nous sommes devant des défis terribles de chômage, de fermeture de sites industriels, etc. Mais nous savions aussi En ce qui concerne la transition, appelons ça comme ça, la transition écologique, la transformation, plus qu'une transition, de nos sociétés vers quelque chose, un monde plus soutenable, il fallait changer aussi un certain nombre de questions, de process industriels, technologiques, etc., pour éviter des émissions, et puis aussi changer sans doute notre rapport à la nature, au mode de vie, à la mobilité, par exemple, cette question de la démobilité, comme certains sociologues ont utilisé ce terme, etc., c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Bon, alors, je crois que là, on parle d'injecter des milliards et pour
dans l'automobile,
dans l'automobile ou dans l'aérien, ou etc. Bon, alors, je crois qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire que je pense que la question, en particulier de la mobilité, ça demande un plan clair de l'État. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de sauver Renault ou de faire plus de voitures électriques si on va faire des voitures très lourdes et pas du tout frugales, comme on est en train d'en parler. C'est-à-dire dire « Ah oui, les SUV électriques, c'est très bien ». Mais non, les SUV, c'est une catastrophe. C'est très lourd, ça consomme beaucoup et ça consommera aussi de l'énergie. Parce que l'électricité, elle viendra de quelque part. Elle ne survit pas de rien. Donc, nous avons ici le nucléaire dans une certaine limite. Il y a beaucoup à en dire. Bon, mais de toute façon, c'est de l'énergie qu'il faut consommer, utiliser, avoir des centrales, etc. Et puis en Europe, parce qu'il faut penser Europe aujourd'hui. On ne peut plus penser la France. Et là, je reviendrai sur votre question de la gouvernance internationale du climat. L'Europe, c'est le point d'appui possible pour amorcer quelque chose. Il est certain que ces négociations, ce changement de la question climatique, politique, pour des solutions viables, ça a besoin d'un point d'appui. Et ce point d'appui, ça ne peut être que l'Europe aujourd'hui.
Vous parlez, Amit Dahan, de la nécessité de repenser la mobilité ou la oui. démobilité, mais vous ne répondez pas à la question en termes d'emploi, notamment, en termes de conjugaison possible des deux exigences économiques et écologiques. Il faut sauver les emplois. Est-ce que, écologiquement, on peut sauver des emplois?
C'est évident que c'est très difficile aujourd'hui, mais quand même, nous avons eu des plans de délocalisation de l'économie durant des décennies. Bon, on sait qu'aujourd'hui, on s'en aperçoit que c'est même contraire à notre souveraineté, et sans parler évidemment de nationalisme ou de souverainisme, mais simplement, à des moments donnés, il y a des choses qui sont vitales pour une nation. Il faut pouvoir y faire face, la santé, l'alimentation, la sécurité, etc.
Relocalisation agricole et industrielle.
Absolument. Il faut absolument penser cela. Il faut penser aussi sur la question de la mobilité, des plans généraux, parce que je crois que il faut ralentir. Ralentir, c'est important, vraiment à tout point de vue. Je crois que par exemple aujourd'hui, je prends un exemple, la 5G. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de la 5G? Alors que la 4G est pas vraiment déployée partout, qu'il y a des tas de technologies qui n'ont pas encore absorbé ça, déjà de technologies annexes, je veux dire, dépendantes de la 4G, qui ne sont pas encore. Et là, on court pour qu'une fraction finalement minime de la population ait accès à encore plus d'accélération, encore plus de choses de contenu à télécharger, etc. Bon, c'est ça la 5G. Alors que ce n'est pas du tout nécessaire.
Donc, Amit Dahan, pour vous, le monde d'après, qui est donc maintenant, c'est un monde ralenti.
Il faut
ralentir. Le monde que vous appelez de vos voeux, c'est continuer dans ce ralentissement.
Il faut continuer dans ce ralentissement parce que sinon on ne pourra pas s'en sortir. Mais il y a des choses qu'on ralentit pas. La culture, je souhaite pas qu'elle se ralentisse.
D'accord. Tout n'est pas ralenti quand même.
Non.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
On retrouve notre invitée Amie Dahan, historienne des sciences, pas seulement historienne de la gouvernance du climat, historienne des sciences plus généralement. J'aimerais qu'on vienne avec vous, Amie Dahan, à cette place des sciences aujourd'hui, puisque effectivement, on a vu énormément de médecins, mais aussi de scientifiques courir les plateaux de télévision ou être interviewés ici et là dans les médias. Nous en parlions tout à l'heure d'ailleurs avec Alexis Lévrier, et pas seulement le professeur Raoult. Est-ce que pour vous, la science, largement disons, sort grandie de ces trois mois que nous venons de vivre?
C'est assez compliqué de répondre brièvement, parce que je crois qu'effectivement, quand il y a eu beaucoup de polémiques sur la question dans le milieu de la médecine, de l'expertise médicale, des choses qui ont été dites, etc. Et un de vos confrères a utilisé l'expression « on se croirait revenu au temps des médecins de Molière ». Bon, oui, c'est vrai, mais je crois qu'il faut bien voir aussi que nous étions, il y a quand même des, comment dire, quelque chose de nouveau avec le coronavirus qui était inconnu, y compris pour les spécialistes, pour les médecins, pour les virologues, les infectiologues, les épidémiologues, et toutes ces disciplines abordent un peu différemment le problème et donc ont face à quelque chose de nouveau qu'on explore. La science est aussi devant l'inconnu, le doute, l'expérimentation. Elle a besoin de temps. La connaissance a besoin de temps. Et donc, elle n'est pas en général immédiate. Il faut expérimenter, il faut des protocoles. Et je crois que c'est très important aussi de comprendre cela. L'épistémologie des sciences a toujours, toutes les disciplines ont les siennes, des protocoles propres qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, d'expérimentation. C'est pour ça que j'ai été un peu effarée d'entendre la façon dont des gens, y compris avec de la notoriété, dire « oh ben les protocoles, on s'en fiche ». On balance ça à la corbeille, etc. Mais non, depuis Pasteur, on sait qu'il faut, pour les traitements, etc., un certain nombre de contrôles. Sinon, on ne peut pas juger les choses en une minute.
Très précisément, Amie Dahan, expliquez-nous comment fonctionne le monde scientifique. Quelles sont les conditions de publication de la recherche et de validation?
Bon, la recherche n'est pas exempte, comme tous les milieux, d'un certain nombre d'abus, d'un certain nombre de lobbies, etc. Mais je crois qu'elle l'est dans l'ensemble, globalement, plutôt moins que les autres. C'est-à-dire que, par exemple, les revues sont strictes, les articles sont revus par des pairs, soumis, etc. Et il faut de longs processus de publication, etc. Aujourd'hui, on sait bien, par exemple,
l'affaire de la chloroquine et du Lancet.
Voilà.
Trois des quatre auteurs de l'article de Lancet sur la chloroquine se sont rétractés cette
exactement.
Semaine.
Et le quatrième, d'après ce que j'ai lu,
problématique quand même.
Je ne suis pas une spécialiste de ce sujet. Il était un petit peu lui-même le PDG d'une entreprise
jugée partie,
exactement, qui fournissait des données, etc. Bon, donc voilà un cas qui ne va pas déontologiquement, mais heureusement qu'il y a des comités d'éthique dans les sciences, et bien sûr, un certain nombre de gens, y compris de gens qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène, ont eu maille à partir avec ces comités d'éthique, que ce soit en France ou à l'échelle internationale. Donc, je crois qu'on ne peut pas, penser que les scientifiques sont des hommes au-dessus des autres et qui ne peuvent pas fauter.
Enfin, certains ne sont pas nécessairement représentatifs du monde scientifique en général. C'est ce que vous voulez dire aussi.
Absolument. Et ce que je voulais dire en parlant tout à l'heure de la question, quand je compare, si vous voulez, avec la question du GIEC, bon, le GIEC s'est donné un certain nombre de règles de fonctionnement.
Le Groupement international d'études sur le climat.
Exactement. Qui existe depuis le début des années 90. Hein, il a été créé en 88 et a fonctionné dès la première décennie 90. Et là, cinq rapports, et le sixième va être pour l'année prochaine, etc. Et des rapports spéciaux par dizaines. Tout converge. Et Dieu sait que la question du climat est quand même très complexe, extrêmement multidisciplinaire, elle aussi. Parce que, voilà, il y a les spécialistes des nuages, il y a les spécialistes de l'interaction des forêts avec l'atmosphère, les spécialistes de ceci, des océans, enfin, etc., des climats anciens. Tous ces gens doivent si vous voulez, ce soin ont mis au point, mais progressivement, ça a pris un temps, et c'est ça le travail que, en particulier moi-même, je me suis attachée à faire, montrer cette marche vers la complexité de la question climatique, qui a été une marche un peu analytique, commune, qui a convergé dans les modèles. Les modèles sont eux-mêmes sujets à un certain nombre de critiques, mais on les a expérimentés, on a regardé les différents scénarios, etc. Il y a des protocoles de vérification, des travaux extrêmement stricts.
Et donc la science demande du temps.
Ça demande du temps.
Aujourd'hui, on n'a pas là.
Là, on n'a pas eu sur le coronavirus, d'où un certain nombre de disparités dans les positions, de problèmes, etc. Dans le comité d'experts, on sait bien qu'interviennent des sous-disciplines différentes.
Le conseil scientifique auprès du gouvernement et du chef de l'État.
Exactement. Donc tout ça peut expliquer, mais finalement, on voit bien quand même que le corps médical a réagi, qu'il y a eu beaucoup de choses. Et, qui ont avancé, qui ont été prises en main. Et aujourd'hui, bien sûr, le vaccin n'est pas là. Il y a un certain nombre d'équipes à l'échelle mondiale qui travaillent dessus. On peut penser que ça va aboutir. Bon, je crois que la science, il faut qu'on comprenne, que la population comprenne que c'est une tâche qui est sérieuse, qui demande du temps, qui demande un certain nombre d'efforts, qui demande aussi, puisque j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de problèmes sur la question du budget et de la loi de programmation de la recherche, qui demande aussi des investissements. Parce que c'est vrai que nous avions entendu, il y a 3 ans, au moment des élections présidentielles, qu'on allait énormément investir dans la recherche. Bon, il y a eu un certain nombre d'investissements.
Le chef de l'État l'a rappelé. Là,
exactement.
Hein,
5 bon,
milliards.
Alors, clairement, comment ça va être, etc. Et je crois que si je puis me permettre, c'est pas tout à fait mon sujet, mais je suis quand même dans le milieu. Je vois que les sciences sociales sont extrêmement inquiètes de la place qu'on leur accorde dans l'ensemble du dispositif de recherche et qu'elles ont peur d'être
oubliées,
absolument, financièrement et aussi intellectuellement. Et c'est ça qui est grave, parce qu'on voit bien que pour penser le monde d'après, on a besoin aussi des sciences sociales. C'est absolument majeur. Et donc voilà, je crois qu'il serait tout à fait pertinent que la ministre de la Recherche fasse un travail de communication ouverte et de dialogue avec les universitaires de toutes disciplines, et que voilà, ce mécontentement n'est pas bon. De la même façon que d'autres questions ont été maltraitées au moment des retraites, etc. Et qu'après, voilà, on les oublie parce que finalement, autre chose est arrivée de plus grave. Bon, la recherche, c'est quelque chose qui traverse toutes les sociétés développées, enfin, qui est présent et très important dans toutes les sociétés développées dont nous faisons partie. Et il faut absolument qu'elle ait une place clair dans notre milieu, dans notre pays, et que ce milieu des chercheurs soit reconnu avec ses prérogatives. Il est normal qu'on ait des exigences vis-à-vis de lui. Je crois que c'est normal. Mais voilà.
Vous disiez tout à l'heure, Ami Dahan, que vous déploriez que le débat public soit aussi pauvre aujourd'hui, précisément sur ces promesses du monde d'après, avec les voies de sortie de la crise sanitaire possible et cette réflexion globale. Il y en a quand même un certain nombre qui travaillent depuis plusieurs mois maintenant. Ils sont près de 150 volontaires et ils font partie de cette convention citoyenne sur le climat. La semaine dernière, le week-end dernier, je crois, ils ont débattu des propositions qu'ils allaient transmettre au président et au gouvernement pour assurer la transition écologique. Je crois que les dernières sessions auront lieu dans quelques semaines, autour de la
dans
fin
3
juin.
Semaines, oui.
Voilà, les 19, 20 et 21 juin. Et début avril, en plein confinement, ils avaient malgré tout apporté leur contribution à une sortie de crise avec 50 propositions. Quelle est la place, alors là, des citoyens à côté du savant et du politique, puisqu'on a vu un conseil scientifique auprès du politique, quelle est la place des citoyens et de ces citoyens de la Convention citoyenne sur le climat pour vous ?
J'ai eu la chance de pouvoir, en tant que chercheur, suivre les débats de la Convention citoyenne. Je suis tenue donc à une certaine réserve jusqu'à la présentation publique de ces résultats. Mais on peut dire tout de suite que c'est impressionnant. Le travail qui a été fait dans les conditions extrêmement difficiles de cette année, que tout le monde connaît, hein, grève pendant pratiquement 2 mois et ensuite le confinement, etc. Donc voilà, beaucoup de choses ont été faites sur les webinaire et par Zoom. Mais il y a eu un travail énorme de ces 150 citoyens qui se sont progressivement complètement approprié le sujet, qui sont devenus pour les uns et pour les autres des spécialistes de tel ou tel thème, puisque vous savez qu'ils étaient répartis en 5 thèmes. Et voilà, les gens qui ont... Et ils ont inventé, on peut dire, ont mis au point, ont imaginé avec une précision incroyable. Là, ça dépasse les 150, les propositions. On est en train un petit peu de les cadrer pour un peu faire...
Le Monde en a publié 50, voilà, en avril.
Mais dans ce qui sera présenté au président de la République et au gouvernement le 21 juin et dans les semaines donc après, c'est plus, bien plus que ça, c'est 150. Au moins.
Par exemple, rénover 20 millions de logements, contenir l'étalement urbain, réduire, vous en parliez tout à l'heure, la place de la voiture individuelle, favoriser les circuits courts et une alimentation durable, décarboner l'économie, freiner la surconsommation.
Exactement, régler la place de la publicité. Enfin, ça va dans des détails, hein, vraiment, et ça examine les différentes... voler possible, parce qu'il y avait des débats entre eux, c'était très démocratique, hein. Ils n'étaient pas d'emblée, acquis, ils avaient des points de vue différents, etc. Et ça convergeait. Donc, je crois que c'est une expérience inédite, franchement, dans l'histoire et dans le monde. Parce que, il y a eu des conventions citoyennes, mais jamais de cette ampleur, jamais aussi longue, jamais aussi vaste comme sujet. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu la convention irlandaise sur la question de l'avortement. Oui, ça a été très important. D'autres, mais jamais un processus d'engagement citoyen aussi important et aussi massif et qui va aboutir sur une vision, vraiment une vision un petit peu...
Vous dites massif, c'est 150 citoyens.
Non, mais massif au point de vue du sujet. Des sujets, si vous voulez.
Et vous pensez que les sociétés civiles peuvent ou doivent faire pression sur les gouvernants ?
Je pense en tout cas que ça doit faire partie, ça enrichit la démocratie représentative. Évidemment, c'est très long comme processus, hein. Ça a pris plusieurs mois, il a fallu former ces citoyens qui se sont emparés du sujet. Eux-mêmes ont été confrontés à des experts, parce qu'ils n'allaient pas tout réinventer, hein. Ils ne connaissaient pas tout, et ils n'allaient pas tout réinventer. Ils ont écouté des experts contradictoires, etc.
Donc, éloge du temps long ce matin avec vous, hein, Amina, j'ai bien compris.